France Inter, il est 13h, passé de quelques secondes. Il est donc l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Les atrocités de la guerre en Ukraine. Le gouvernement ukrainien dénonce un massacre délibéré de civils dans la ville de Boutcha, dans la région de Kiev. Londres réclame une enquête pour crimes de guerre. Charles Michel pour l'Union européenne, choqué, demande plus de sanctions. Nous serons en Ukraine avec nos envoyés spéciaux dans un instant. Sur le terrain militaire, l'armée russe a mené plusieurs frappes ce matin sur la ville d'Odessa. Invité de ce journal, le général Palomero, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. À l'étranger encore, élection législative en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban brique un quatrième mandat. Et en France, l'actualité, c'est la campagne à J-7 du premier tour de l'élection présidentielle. Jour de meeting aujourd'hui, notamment à Paris pour Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. À Toulouse pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis le marathon de Paris, remporté par l'Éthiopien Dezo Gelmissa en 2h, 5 minutes et 7 secondes. Le Français Morad Hamdouni termine 3e à 15 secondes. La météo, plus aucun département en vigilance orange, mais après la neige, un épisode de gel menace Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
L'actualité ce dimanche avec d'abord la guerre en Ukraine et deux informations principales à la mi-journée. L'armée ukrainienne a repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes et la découverte de scènes macabres après leur départ. Dans le même temps, l'armée russe a mené une série de frappes sur la ville d'Odessa, au sud, le principal port de l'Ukraine, sur la mer Noire et cible prioritaire pour Moscou. D'abord, le retrait russe du nord de l'Ukraine et on retrouve en direct de Kiev nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot. Bonjour Thibault.
Bonjour Frédéric.
Alors ce matin, je le disais, le président du Conseil européen, Charles Michel, dénonce des atrocités de l'armée russe dans cette région de Kiev. Londres réclame une enquête pour crimes de guerre. Le gouvernement ukrainien parle, lui, de massacres délibérés de civils. Et vous, Thibault, vous avez pu constater des scènes terribles dans des villes libérées. Et ce matin, on parle beaucoup de la ville de Boutcha.
Oui, alors impossible d'entrer à Boutcha hier. Hein. L'armée a bloqué les entrées un peu plus au sud, au niveau d'Irpine, et un couvre-feu empêche les accès depuis 21h hier. Mais les témoignages sont édifiants. Le maire de la ville d'abord, Anatoly Fedorouk, très sonné hier au téléphone, qui évoque le chiffre de 287 morts inhumés dans des fosses communes. Mais surtout celui du fossoyeur de Boutcha, Anatoly Kouchnirtchouk, il est aumônier pour l'armée. Et il raconte la présence de cadavres partout, dans les abris, dans les rues, des victimes civiles retrouver les mains liées, visiblement assassinées de sang-froid, d'une balle dans la nuque. Les autorités ukrainiennes parlent d'un massacre et les photos qu'elles nous ont envoyées ce matin sont tout simplement atroces. Un homme torse nu en sang jeté au fond d'une citerne et puis des corps inertes sur les routes, dans les rues, dans les champs. Le décompte officiel de 287 victimes est sans aucun doute largement sous-estimé.
Alors Thibault, l'armée russe quitte le nord et frappe au sud. Plusieurs explosions ont eu lieu à Odessa ce matin. Les frappes russes visaient le port d'Odessa. On ne sait pas s'il y a des victimes.
Alors visiblement non, hein. Selon les autorités, une raffinerie et trois dépôts d'essence et de lubrifiants ont été visés. C'était, vous l'avez dit, dans la zone industrielle de la ville, en périphérie du port, une attaque qui a surpris les habitants comme Nathalie, jusque-là relativement épargnée.
Je me suis réveillée vers 6h du matin à cause d'un grave bruit de bombardement. J'avais peur. Tous les gens à Odessa espéraient que Odessa ne serait pas attaquée. Mais c'est la guerre. J'espère que Odessa pourra résister.
Pour le moment, l'hypothèse d'une attaque terrestre à Odessa est à exclure. En tout cas, tant que le verrou de Mykolaïv à 150 km à l'est d'Odessa résiste aux offensives russes.
Thibault Lefebvre avec Benjamin Thuot en direct de Kiev. Merci. Merci à vous. Concernant les négociations, avec une annonce la nuit dernière, Kiev a indiqué que la Russie était prête à un entretien entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine. Démenti de Moscou, parler d'entretien Poutine-Zelensky est prématuré. Les conditions ne sont pas encore réunies pour un sommet entre les deux présidents. Selon le principal négociateur russe et sur le terrain, l'urgence est humanitaire. L'ONU a envoyé un haut responsable aujourd'hui à Moscou pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Sur place à Moscou, Jean-Didier Revoit.
La Russie et l'Ukraine ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur les conditions d'une sortie de crise. Le chef de la délégation russe, dans les pourparlers avec l'Ukraine, estime que Kiev est devenu plus réaliste dans son approche des questions liées à la neutralité du pays, de même que sur sa non-nucléarisation. Mais Vladimir Medinsky considère qu'on est encore loin d'un projet d'accord que pourraient signer les présidents russes et ukrainiens. La principale pierre d'achoppement demeure la reconnaissance connaissance de l'annexion de la Crimée par Kiev. Dans l'intervalle, l'opération militaire spéciale, comme l'appellent les autorités russes, se poursuit. Mais pour la première fois depuis le 24 février, un émissaire des Nations Unies est attendu aujourd'hui à Moscou avant de gagner Kiev. Le Britannique Martin Griffith tentera d'arracher un cessez-le-feu humanitaire au parti, alors que ce matin, une série d'explosions a été entendue à Odessa, principal port ukrainien donnant l'accès à la mer Noire. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Invité de ce journal, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême de l'OTAN pour la transformation. Bonjour général Paloméros.
Bonjour.
Alors la libération de Kiev au nord de l'Ukraine, est-ce que c'est une victoire au courage de l'armée ukrainienne selon vous ?
Oui, c'est une victoire. La victoire, c'est surtout d'avoir arrêté l'offensive russe qui visait clairement à déstabiliser le pouvoir. Et ça a été la très belle victoire des Ukrainiens. Et maintenant, les Russes, on est dans un changement. On est dans une période charnière avec un changement de stratégie des Russes. Donc, il est logique qu'ils se retirent, au moins momentanément, on verra sur le très long terme, de Kiev pour se concentrer, comme ils l'ont dit, sur le Donbass. Donc on est vraiment dans une autre phase de la guerre maintenant.
C'est un redéploiement, une autre stratégie, mais ce n'est pas une défaite de l'armée russe ?
Il y a une défaite. Il y a une défaite d'abord de la stratégie initiale de Vladimir Poutine et puis une défaite tout court de l'armée russe avec tous les problèmes qui ont déjà été évoqués, les problèmes logistiques, des problèmes techniques, des problèmes de conception même des opérations. Mais les Russes vont forcément se reprendre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils appliquent maintenant, ils vont appliquer l'art militaire en quelque sorte, c'est-à-dire en se focalisant sur un objectif donné et atteignable. Et ça, c'est clairement le Donbass, l'est de la Crimée, sachant qu'ils sont déjà au sud et qu'ils continuent malheureusement leur pilonnage sur Mariupol.
Alors, le gouvernement ukrainien et le président Zelensky estiment que les jours les plus durs sont encore à venir, que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, ce retrait, ce changement de stratégie.
Ah non, c'est pas une bonne nouvelle. Et effectivement, vous avez raison de le dire. Le président Zelensky est très grave. Là, ce matin, je l'ai écouté.
Oui.
Il a conscience de la situation parce qu'il a une très grosse responsabilité. C'est de définir quel niveau d'engagement il souhaite pour ses forces dans le Donbass et comment défendre, en quelque sorte, le Donbass, au moins dans les frontières qui préexistaient avant la guerre. Plus si possible, mais surtout éviter une extension de la présence russe dans l'Est, et avec cette jonction d'ailleurs entre le Nord, il y a Kharkiv également qui peut être menacé, et puis l'Est et le Sud, avec la question pendante d'Odessa.
Alors, cette victoire des Ukrainiens dont on parlait est rendue possible grâce aux armes fournies par, plus généralement, l'Occident, les Européens, les Américains, les Canadiens et même les Turcs. Le soutien va se poursuivre, bien évidemment, de l'Occident dans cette nouvelle configuration. Mais est-ce que, général Paloméros, on peut parler concernant l'OTAN ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Alliance Atlantique a perdu l'Ukraine ?
Oui, mais ça date de 2014, si vous voulez. Quand les forces russes, quand Vladimir Poutine a envahi la Crimée et puis soutenu les séparatistes du Donbass, il a créé une situation qui ne permettait pas, dans tous les cas de figure, à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, parce qu'un pays qui est divisé, un pays qui a une forme de guerre civile, si vous voulez, sur son territoire, ne peut pas rejoindre une alliance dont le principe même est que la défense de chacun repose sur une défense collective. Et ça, Vladimir Poutine l'a dit avec beaucoup de sarcasme. Il a parfaitement compris qu'il avait brisé le rêve de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, et dans une certaine manière aussi de l'Union européenne.
Général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême de l'OTAN pour la transformation, merci à vous. Cette guerre en Ukraine a poussé plus de 4 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays. La Pologne, à elle seule, accueille la moitié de ses réfugiés. Et selon le ministère de l'Intérieur à Paris, la France accueille au moins 36 000 réfugiés ukrainiens. Emmanuel Macron a demandé de créer des conditions pour pouvoir accueillir plus de 100 000 personnes en France. Des moyens que saluent les associations d'aide aux personnes migrantes. Mais elles aimeraient aussi que cette générosité dont témoigne la France depuis le 24 février ne se limite pas aux réfugiés. réfugiés ukrainiens et pour dénoncer une différence de traitement. Une manifestation est prévue cet après-midi à Pantin, à l'appel notamment de Médecins du Monde. Michael Neumann, directeur d'études à MSF, avec Delphine Evenou.
On constate tous les jours des énormes déficits de logements, d'hébergements d'urgence pour les migrants arrivés ces dernières années, des squats, des gens qui dorment sous les ponts. Les dispositifs d'hébergement d'urgence sont pleins, les personnes sont parfois menacées d'évacuation, d'expulsion pour peut-être être remplacées par des Ukrainiens. Donc on voit une forme de double standard qui se met en place et qui est un vrai problème. Ce qu'on demande à l'État aujourd'hui, c'est de réaliser que ce qu'il est possible de faire pour ces Ukrainiens, il est possible de le faire pour l'ensemble de la population à laquelle on apporte notre aide, c'est-à-dire d'offrir de l'hébergement, d'offrir de l'orientation. Finalement, aujourd'hui, les associations, les collectifs sont dans une substitution à l'État qui n'a pas lieu d'être. L'État doit pouvoir remplir son rôle, qu'on parle de Syriens, d'Afghans ou d'Ukrainiens de la même manière.
Michael Neumann de Médecins sans frontières. À l'étranger encore, la Hongrie vote aujourd'hui pour des législatives et pour dire si Viktor Orban peut rester au pouvoir. Le Premier ministre espère conserver son poste qu'il détient depuis 12 ans. Un scrutin incertain et selon Bruxelles, des inquiétudes pèsent sur la régularité des opérations de vote. Sur place à Budapest, on retrouve Louise Baudet. Bonjour Louise.
Bonjour Frédéric.
20 000 bénévoles sont mobilisés aujourd'hui en raison des craintes de fraude, plus 200 observateurs de l'OSCE.
Effectivement, alors ces 20 000 citoyens hongrois, ils sont à pied d'œuvre depuis ce matin, des observateurs envoyés par le mouvement citoyen 20K dans ces petites villes et villages de province où le parti au pouvoir, le Fidesz, fait ses meilleurs scores. Lors des dernières élections, il y a 4 ans, dans le tiers des bureaux de vote, il n'y avait pas de scrutateurs représentant l'opposition et le Fidesz y a obtenu des scores 20% supérieurs à ceux recueillis dans des circonscriptions équivalentes. Viktor Orban a par ailleurs façonné une loi électorale à sa main. Il a notamment accordé la nationalité hongroise aux 2 500 000 Magyars qui vivent en dehors des frontières. Or, ces récents Hongrois de l'étranger peuvent voter par simple mail en Roumanie, en Serbie, en Slovaquie, où on vote Fidesz à plus de 90%, alors qu'en Europe de l'Ouest, les ressortissants hongrois doivent se déplacer à l'ambassade de la capitale, ce qui limite bien sûr la participation. Viktor Orban est enfin favorisé par le redécoupage électoral adopté il y a 8 ans et par un amendement récent qui permet carrément de déclarer une adresse fictive, porte ouverte à l'inscription des électeurs du Fidesz, là où l'opposition est donnée gagnante. Tout aura donc été fait, vous le voyez, pour que le pays accorde une fois de plus une large avance ce soir au parti au pouvoir.
Louise Baudet, en direct de Budapest.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
La campagne présidentielle ce dimanche à 7 jours du premier tour. On entre dans le sprint final avec plusieurs meetings aujourd'hui, notamment Parc des Expositions, Porte de Versailles. À droite, Valérie Pécresse réunit ses troupes. Les Républicains essaieront de donner l'image d'un parti uni malgré les défections, des sondages peu encourageants et une campagne qui s'enraye. Et l'absence de Nicolas Sarkozy, Anne Souhaitement.
Laver l'affront du zénith, le camp Pécresse l'assume. À une semaine du premier tour, il faut changer l'image de la candidate, qui cette fois n'apparaîtra pas seule sur scène, mais entourée, avec l'intervention à la tribune d'une dizaine de cadres de sa campagne. Illustration d'une droite prête à incarner l'alternance et unie dans la tempête. Enfin, pas complètement, Nicolas Sarkozy brillera par son absence cet après-midi. Un discours que son entourage promet très politique. On n'en est plus au programme. Valérie va dire « la droite, c'est moi ». La candidate va donc à nouveau tenter de convaincre cet électorat qui lui a fait tant défaut, tenté d'un côté par Éric Zemmour, de l'autre par un président sortant qui caracole en tête des sondages. Emmanuel Macron, dont Valérie Pécresse devrait dénoncer l'obsession de la construction du duel avec les extrêmes, il refait le même coup qu'aux européennes, s'énerve Geoffroy Didier, directeur de la communication. Malgré des sondages qui vont tous dans le même sens, le camp Pécresse veut continuer d'y croire. La vérité, c'est que 0% des Français ont voté.
À gauche, Jean-Luc Mélenchon, donné en troisième position dans les sondages, rassemble cet après-midi ses militants et ses soutiens à Toulouse, meeting place du Capitole pour le Parti Socialiste. Anne Hidalgo sera en meeting cet après-midi au Cirque d'Hiver à Paris. Et au PS, la défaite et la déroute semblent actées. Benjamin Mathieu.
Ils y ont cru jusqu'en février, certains louant cette candidate inoxydable qui continuait à faire campagne malgré des sondages catastrophiques. L'un des maires socialistes engagés à ses côtés constate néanmoins l'échec. Anne Hidalgo est plus percutante qu'en début de campagne, mais rien ne passe, commande cet élu, enterrant même son parti. Voter socialiste aujourd'hui, ça sert à quoi, s'interroge-t-il. Autre critique, l'entourage, pas au niveau, selon cet autre élu local pourtant très impliqué. Il y a trop de mauvais génies dans cette histoire, certains sont de vraies catastrophes. Cette même source pointe aussi des erreurs stratégiques. notamment les attaques très violentes contre le leader insoumis à partir du début de la guerre en Ukraine. Ses propos sur Mélenchon sont outranciers, s'emporte-t-il. Et que dire du soutien en dernière minute de François Hollande à Limoges, où l'ancien président a pris toute la lumière, laissant la maire de Paris seule à la fin du meeting, quand lui parlait à une trentaine de journalistes, actant déjà la défaite et ses conséquences pour le PS.
À l'extrême gauche maintenant, Philippe Poutou était l'invité ce matin du 6-9 de France Inter et le candidat du nouveau parti anticapitaliste a réagi au meeting hier d'Emmanuel Macron à la Défense Arena. Bonjour Julie Drouin.
Bonjour.
Philippe Poutou est revenu sur une phrase particulière prononcée par Emmanuel Macron et qui n'est pas passée inaperçue.
Nos vies valent plus que leurs profits. Une formule d'Olivier Besancenot et son slogan de campagne en 2002. Une récupération par le président qui n'a pas manqué de faire sourire Philippe Poutou ce matin.
Si on avait su, on l'aurait fait breveter, ça nous aurait rapporté des sous, quoi. T'es pas le premier à utiliser des slogans des autres pour essayer un peu de faire illusion. C'est tous les culots d'un Macron et de sa bande. Ils sont habitués à ça, en fait, hein, à faire comme si de rien n'était ou même à se montrer à l'opposé de ce qu'ils sont en réalité.
Par ce slogan, cher à l'extrême gauche, donc Emmanuel Macron dénonçait la maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD, notamment avec le scandale Orpea. Il est assez mal placé, selon le candidat du NPA.
Ça permet de montrer que quand le privé s'occupe de ces choses-là et de la santé, ben, ça devient très grave. Et c'est pour ça que nous, on discute d'un service public pour les EHPAD, un service public pour les personnes âgées. Et même globalement, c'est l'idée du service public pour tout ce qui concerne les besoins fondamentaux de la population qui est incontournable. Parce qu'on voit que quand le privé s'occupe de ces choses-là, ben, il s'intéresse à ses profits, à des logiques de rentabilité. Et ça coûte très cher, en fait. Pour la population. Donc, travers les petites gesticulations de Macron, il y a aussi ce problème-là qu'il faut qu'on discute de fond, quoi.
Philippe Poutou appelle, lui, à construire une économie qui réponde aux besoins de la population, sous contrôle public et dégagée de la loi des profits.
Julie Drouin, et cette année, une semaine du premier tour, on observe un afflux dans les commissariats pour les demandes de procuration. La principale raison est que les deux dates du scrutin tombent pendant les vacances de Pâques. Et par crainte d'une abstention massive, tous les partis rappellent que l'on peut voter par procuration. La procédure a même été simplifiée. Elle peut se faire sur Internet, mais il faut ensuite faire valider sa demande dans un commissariat. Reportage dans le Finistère, où avant le premier tour, de nombreux électeurs se rendent dans les commissariats ou les gendarmeries du département. Erwan Chassin, France Bleu, Brésizel.
Thomas, 24 ans, il franchit avec sa mère les portes du commissariat de Quimper, carte d'identité en main.
Je viens faire ma procuration pour les élections. J'ai fait toute la démarche en ligne et là, je viens envoyer le dossier avec mes pièces d'identité. Ouais.
Il ne sera pas en France pour glisser lui-même son bulletin dans l'urne, alors il fait procuration à sa mère, très fier.
Cette initiative est venue de lui et je trouve ça très responsable.
À 19 ans, Jane va voter pour la première fois pour l'élection présidentielle. Elle aussi sera loin de son bureau de vote.
Du coup, je donne procuration à mon père.
Première procuration qu'elle réalise sans difficulté.
Je pensais qu'il fallait faire des démarches téléphoniques ou même venir remplir des papiers sur place. J'ai regardé sur Internet et c'est hyper simple, il suffit d'aller sur un site.
Maprocuration.gouv.fr.
Tout est indiqué et puis après on vient confirmer à la gendarmerie ou à la police, quoi.
La police va recevoir et étudier la demande de Jane. Une période particulière dans les commissariats, souligne Eric Kerbar, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police.
Dans les commissariats du département, c'est des anciens policiers réservistes qui sont en charge des procurations.
À Brest, ils sont deux. Si les procurations ne causent pas non plus d'embouteillage dans les commissariats finistériens, Eric Carbar souhaite une autre organisation.
Ce genre de mission pourrait être fait peut-être plus dans les mairies de quartier.
Cela permettrait, selon lui, de déployer ses policiers sur des affaires plus urgentes.
Et on termine avec le marathon de Paris sous un soleil froid, mais avec 36 000 participants. Victoire de l'Éthiopien Dessau Gelmissa en 2 heures, 5 minutes et 7 secondes devant son compatriote Seyfou Toura à 3 secondes. Le Français Morad Hamdouni termine 3e à 15 secondes et il bat de plus d'une minute le record de France du marathon de Paris, record battu également chez les femmes. La Kenyane Judith Jeptum s'impose en 2 heures, 19 minutes et 48 secondes. Le marathon de Paris, un événement qui est revenu cette année à la normale, avec des supporters. Pauline Joss.
Bravo Louis-Marie !
Juste après, le fatidique mur des 30 km redouté par les coureurs. Sur les visages, on peut voir la douleur de l'effort. Heureusement, les supporters se sont déplacés en nombre. Certains viennent admirer ce grand moment de sport, comme Laurent.
Oh bah c'est un moment important, passionné de course à pied en plus, moi. Donc le marathon de Paris, c'est un des marathons mythiques dans le monde. Donc forcément, c'est une grosse course en France également. Là, je lis un peu de difficulté. On a vu passer les premiers qui étaient assez à l'aise quand même, sans envoyer. Et bon, là, on voit qu'il y a des rythmes assez différents. On voit que certains ont des stratégies de course un peu différentes. Bah voilà, il y en a un qui marche, le pauvre. Bon, on va les encourager. Hein.
D'autres suivent avec attention un coureur en particulier. C'est le cas d'Adèle, venue encourager son frère avec sa belle-sœur Mathilde.
Il va passer là dans 3 minutes, donc on est hyper excités de le voir.
On suit ses temps et on va le rejoindre après au prochain kilomètre pour être tout le temps à côté de lui.
Ouais, là on est du coup au 31e kilomètre, après on va courir jusqu'au 35e, puis on va recourir jusqu'à l'arrivée. Donc nous aussi on peut
faire le marathon. Vous aussi c'est la course. Ouais, c'est ça.
Après le passage devant la maison de la radio, il reste encore plus de 10 km à courir le long de la Seine et dans les allées du Bois de Boulogne jusqu'à la ligne d'arrivée tant attendue, avenue Foch.
Et puis en fauteuil, le français Julien Cazoli remporte l'édition Handisport pour la 5e fois de sa carrière avec une moyenne de près de 26 km/h. Il s'impose, Julien Cazoli, en 1h38 et 3 secondes.